mix.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
Dans la nuit. Nuit noire.
La nuit, c'est un sacré tapin qui marche sur la main. Matin, la nuit, ça cause avec le vent, ça chante doucement.
Oh nuit, notre vie est un voyage comme veille dans la nuit.
Oh nuit,
notre vie est un voyage comme veille dans la nuit.
Oh nuit,
notre vie est un voyage,
notre vie est un voyage.
Notre vie est un voyage comme veille dans la nuit.
La nuit,
comme veille dans la nuit. Dans l'hiver et dans la nuit. Dans l'hiver, dans la nuit.
La nuit et l'hiver.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
Radio Libertin, la voix de la Fédération anarchiste sur 89.4 FM et www.radio-libertaire.net. Bonsoir à toutes et à tous, la nuit noire, c'est parti. Nous allons passer une partie de la soirée ensemble. Il est 22h32, nous sommes en direct, bien évidemment. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir Radio Libertaire en vous procurant une carte d'auditeur, une carte d'auditrice. Elles sont disponibles du côté de la librairie du Mont Libertaire au 145 de la rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Vous avez également la souscription des amis avec un E et 100 de Radio Libertaire pour vous faire prélever une somme mensuelle sur votre compte bancaire en soutien à Radio Libertaire, hein, bien évidemment. C'est pas pour payer des vacances à je sais pas qui. En soutien à Radio Libertaire, bien sûr. La souscription des amis, ça se passe sur radio-libertaire.org. Vous avez les autocollants de Radio Libertaire qui sont disponibles toujours du côté de la librairie du Monde Libertaire, Publico, la Barricade, au 145 rue Amelot, 75 011 Paris, bien sûr. Et enfin, le bouche à oreille, c'est un moyen de soutenir la radio en faisant connaître ses programmes autour de vous, n'hésitez surtout pas à le faire. Et c'est un moyen de soutenir la radio qui ne coûte pas un rond, donc assez pratique en ces temps où le capitalisme triomphe. Au sommaire ce soir, eh bien, nous allons traiter de manière très récurrente dans cette émission de l'actualité des religieux, hein, de la religion, des autorités religieuses plus précisément du reste, et la sombre hypocrisie dans laquelle ces gens nous emmènent. Hein. Et puis cette sombre hypocrisie avec laquelle eh bien, ils règnent, hein, en tout cas ils vivent dans leur bain d'hypocrisie. Et de temps en temps, très régulièrement, des nouvelles nous remontent comme ça. Elles sont parfois traitées par les médias traditionnels, va-t-on dire. Parfois beaucoup moins, mais sur un média anticlérical comme Radio Libertaire, eh bien, cette actualité a toute sa place. Et c'est ce que je m'évertue à faire un lundi sur deux quand il y a émission. Parfois, il n'y a pas émission, je vous en demande excuse à ce niveau-là. Mais vous le savez, il y a deux marottes hein, dans cette émission. C'est le dérèglement climatique qui nous arrive dans la tronche, mais comprenez, l'urgence absolue en France, c'est de faire travailler 2 ans de plus les gens. C'est pas le réchauffement climatique. Bon, je vais pas m'énerver tout de suite, mais c'est quand même un peu énervant, quoi. Hein. Aïe, 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 quelle misère, quelle tristesse. Bon, bref, le premier, c'est donc le dérèglement climatique, hein, qui est une réalité très concrète, et contre laquelle non pas se battre, parce qu'il ne s'agit pas. Mais remettre en cause, c'est une réalité qui est remise en cause par tout un pan hein, de l'échiquier politique à l'heure actuelle, qui se situe à droite, voire très à droite. Mais la réalité de ce dérèglement climatique est remise en cause hein, un peu partout. Donc il me semble important de rapporter des faits, comme ça, tout simplement des faits, hein, rien de plus. Moi, je ne suis pas scientifique, donc je ne peux me livrer à aucune analyse. Mais de temps en temps, je vous rapporte quelques faits concernant cette urgence climatique. Et la deuxième marotte de l'émission, eh bien, comme je vous le disais, hein, c'est de s'intéresser à l'hypocrisie profonde qui anime les gens de la religion, d'une manière générale. Et plus particulièrement parce que c'est la religion qui est la religion officielle chez nous, de l'Église catholique. Et bien encore ce soir, nous allons passer du temps avec les méfaits, pour ne pas dire les crimes, voire la complicité de crimes de ces religieux, hein, qui est des crimes qui touchent bien souvent les enfants. Donc voilà pour le sommaire. Nous allons attaquer dans quelques instants, hein, très vite. On va simplement s'écouter une petite chanson de Jean Ferrat pour commencer tranquillement cette émission. Moi, me laisser le temps un petit peu de m'installer, de reprendre mes marques, hein, d'une certaine manière, dans ce studio dans lequel je viens depuis quelques années maintenant. Mais le temps d'installer tout ça, et on se retrouve après cette chanson de Jean Ferrat. La thématique ce soir de la playlist, de la sélection de chansons avec laquelle je suis venu, avec lesquelles d'ailleurs, les chansons, ou la sélection d'ailleurs, laquelle, eh bien ce soir c'est beaucoup de calme, hein, beaucoup de, voilà, de douceur, tout simplement.
La 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 derrière les murs dans la rue. Se passe-t-il? Quel vacarme? Quels travaux? Quels cris? Quelle larme? Pour rien la vie, un linge est cru. Sèche au jardin sur une corde. C'est le soir, cela sent le thym. Un bruit de charrette s'éteint. Une guitare au loin s'accorde. La 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 la. Il fait jour longtemps dans la nuit. Un zeste de lune, un nuage. Que l'arbre salue au passage. Et le cœur n'entend plus que lui. Ne bouge pas, c'est si fragile. Si précaire, si hasardeux. Cet instant d'ombre pour nous deux, dans le silence de la ville. La 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 la. La 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 la.
La nuit noire sur Radio Libertaire, Jean Ferrat, à l'instant même, dans le silence de la ville, des paroles de Louis Aragon, bien évidemment. On va commencer avec une nouvelle qui a effleuré les plateaux télévisuels habituels, on va dire, les journaux télévisés, les chaînes d'information en continu. On va commencer cette revue de presse non exhaustive mais militante avec le haut, tout à fait le haut de la pyramide, hein, le pape. Alors, il y a quelques années de cela, dans les années 50, Léo Ferré chantait la chanson Monsieur Tout Blanc. Et dans cette chanson, Monsieur Tout Blanc, le monsieur tout blanc dont il est question, c'est un monsieur qui est habillé tout en blanc, c'est le pape, il s'agit du pape Pie XII. Et Léo, dans sa chanson, dit « Il n'y a pas longtemps, monsieur tout blanc, vous vous taisiez ». Eh bien, cette considération à propos du silence du pape Pie XII concernant les abominations commises par le régime nazi, eh bien, nous pouvons les projeter finalement sur un autre pape qui s'appelle Jean-Paul II, un hommage à nos amis de la Pente du Carmel que j'embrasse affectueusement. Jean-Paul II, qui était le pape avant que ce soit un nazi, Benoît XVI, et avant que ce soit notre pape actuel, qui s'appelle je ne sais plus comment. Donc avant le nazi, il y avait Jean-Paul II, et avant d'être pape, Jean-Paul II était cardinal en Pologne. Hein. Bien évidemment, avant d'être nommé, ils sont tous un peu cardinaux, et puis au fur et à mesure, les sous-papes, ça c'est un petit hommage à Prévert, les sous-papes deviennent papes avec les casseroles qui traînent derrière eux éventuellement, ou alors les casseroles empaquetées dans du bulle-pâte pour pas faire trop de bruit. Là, en l'espèce, c'est le cas. Le 5 mars dernier était publié par l'AFP et repris par un certain nombre de sites. Là, en l'espèce, j'ai l'article de l'AFP repris par 20 minutes à propos de Jean-Paul II. Et l'article que j'ai entre les mains s'intitule « Pologne. Avant de devenir pape, Jean-Paul II aurait dissimulé des affaires de pédocriminalité. » De pédophilie, il est écrit, moi je préfère employer le terme de pédocriminalité. Je vous lis l'article avec forcément quelques commentaires ici ou là, mais c'est tellement accablant. Y a-t-il vraiment besoin de commenter? Si, sans doute, ne manquerai-je pas de ne pas m'en priver. Le cardinal Karol Wojtyla était au courant d'affaires de pédophilie dans l'église polonaise avant qu'il ne soit élu pape. Avant qu'il ne soit élu pape, Jean-Paul II, il s'appelait Karol Wojtyla avant d'être Jean-Paul II, en 1978. C'est en tout cas ce qu'affirme une enquête journalistique présentée ce dimanche, témoignage à l'appui, par la télévision privée polonaise intitulée TVN. Alors qu'il était cardinal et évêque de Cracovie, Karol Wojtyla était au courant de certains actes de pédocriminalité commis par des prêtres de son diocèse, qu'il transférait d'une paroisse à l'autre pour éviter le scandale, assure l'auteur de l'enquête Michal Gutowski. Alors je vous parlais des casseroles et puis des casseroles emballées dans du papier pour faire en sorte que ça ne fasse pas trop de bruit. Apparemment, c'était quand même la volonté de ce Karol Wojtyla, devenu Jean-Paul II par la suite, alors qu'il n'était que cardinal et évêque de Cracovie, ce qui est déjà pas mal quand même. Il était au courant que des cas de pédocriminalité existaient dans son échevêché, je ne sais pas comment on peut appeler ça, dans son coin. Et pour éviter que ces cas de pédocriminalité deviennent des problèmes, c'est-à-dire qu'ils aboutissent à la justice, en gros, hein, que les victimes soient reconnues et que la justice soit faite, hein, eh bien Jean-Paul II se débrouillait pour faire en sorte que ces prêtres soupçonnés de pédocriminalité soient transférés d'une paroisse à l'autre pour éviter le scandale. C'est pas mal quand même, hein. Quelle belle hypocrisie. On commence quand même avec une bonne dose d'hypocrisie. Je poursuis la lecture de l'article. Un des prêtres a été envoyé par le futur pape en Autriche. Le cardinal Wojtyla a, dans ce cas, écrit une lettre de recommandation au cardinal de Vienne, qui s'appelle Monsieur Untel, sans l'informer des accusations pesant contre le prêtre. Voilà, encore une fois, hein, lorsqu'il ne peut plus les déplacer dans son diocèse, dans son coin, il les envoie dans un autre pays, mais alors surtout pas un mot sur le pédocriminel qu'il est. Hein. Surtout pas un mot. C'est quand même, là encore, une deuxième dose d'hypocrisie. Je reprends la lecture. Dans le cadre de l'enquête, Michal Gutowski a rencontré des victimes de prêtres pédocriminels, leurs proches, ainsi que d'anciens employés du diocèse. Il cite aussi des documents de l'ancienne police secrète communiste, la SB, et de rares documents de l'Église auxquels il a pu accéder. Le diocèse de Cracovie lui a refusé l'accès à ses archives, selon le journaliste. Là encore, hein. Non seulement à l'époque, il y avait une bonne dose d'hypocrisie, mais rajouter par-dessus une bonne dose également d'omerta, et tout va bien. Donc, il est déjà arrivé que l'Église polonaise refuse de fournir des documents, même à la justice ou à une commission publique d'enquête sur les cas de pédocriminalité. Donc là, hein, c'est, voilà, pas de surprise, on confirme l'hypocrisie la plus complète qui règne, hein, l'omerta même la plus complète qui règne au sujet des actes de pédocriminalité au sein de l'Église, y compris en Pologne. Bon, ce n'est guère surprenant. Je reprends la lecture. Souhaitant garder l'anonymat, un témoin a confirmé avoir personnellement rapporté au cardinal Wojtyla, devenu Jean-Paul II donc, des actes pédocriminels d'un prêtre en 1973. Wojtyla voulait d'abord, alors c'est une citation, c'est cet homme donc, un témoin qui souhaite garder l'anonymat, on peut tout à fait le comprendre. Vu la mafia à laquelle il a affaire. Donc Karol Wojtyla voulait d'abord s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un bluff. Bon, très bien. Il a demandé à ne le rapporter nulle part. Il a dit qu'il s'en occuperait, a déclaré cet homme, ajoutant que le cardinal lui avait explicitement demandé si l'affaire pouvait rester étouffée. Surtout, pas la justice, et encore moins celle des hommes. Alors, l'article de l'AFP va citer maintenant Thomas Doyle, qui est un ancien prêtre américain, spécialiste du droit canonique et auteur d'un des premiers rapports sur les abus du clergé catholique aux États-Unis. Il dit ceci à propos de l'enquête menée par Michal Gutowski. Il dit ceci: ce que vous avez découvert est révolutionnaire, car cela montre ce que beaucoup de gens soupçonnaient depuis des années, que Jean-Paul II savait que ce problème existait avant même qu'il ne devienne pape. C'est bien, hein ? Il ajoute ceci: il devait savoir, mais il n'y avait pas de preuve, et là, on a une preuve. L'article nous apprend également qu'un livre comportant de semblables accusations contre Karol Wojtyla, devenu Jean-Paul II, devait paraître, donc il y a quelques temps de cela, l'article est du 5 mars, il nous disait doit paraître mercredi, donc est paru début mars. Résultat d'une enquête du journaliste néerlandais Eke Overbeck, il est intitulé « Maxima culpa, Jean-Paul II savait ». Plusieurs affaires de pédocriminalité au sein du clergé, révélées principalement par les médias, ont secoué l'église polonaise ces dernières années. Plusieurs hauts responsables polonais ont été sanctionnés par le Vatican. Voilà cet article qui sera bien évidemment en lien, hein, sur le blog de l'émission missnight.blogspot.com. Karol Wojtyla, devenu Jean-Paul II, savait précisément, avant de devenir pape, qu'il y avait des actes pédocriminels au sein de son diocèse, de sa paroisse, enfin, la paroisse c'est juste le prêtre, mais lui en tout cas de son diocèse, de son échevêché, je sais pas comment on appelle ça, qu'importe, il le savait. Non seulement il le savait, mais il s'est arrangé pour faire en sorte que les pédocriminels dont il avait la responsabilité soient transférés sans faire trop de bruit dans d'autres paroisses, dans d'autres pays, etc. Et surtout, il a pu être nommé pape alors qu'il traînait ces casseroles-là. Aucun souci, l'hypocrisie la plus complète, l'hypocrisie du Vatican, là-dessus, je crois que c'est très clair. Alors effectivement, cette révélation a été portée au devant de la scène, puisqu'il s'agit du pape, hein, il s'agit de Jean-Paul II, et donc il était difficile pour nos médias traditionnels de faire eux aussi une part d'ombre sur cette information qui est assez importante et qui dénote tout de même un certain climat au sein de l'Église catholique. On peut être détenteur de secrets comme ceci, hein, qu'il y a des actes pédos. On parle pas d'un mec qui a volé 50 centimes dans un tronc, hein. On parle quand même de prêtres qui ont violé des enfants. Il y a quand même une échelle de gravité assez conséquente, là, quand même. Eh bien, on peut être au courant de ces faits-là et se taire, s'arranger pour faire en sorte que ces prêtres qui sont incriminés, eh bien, disparaissent dans la nature, d'une certaine manière. Et puis surtout, bah, on peut, en dépit de cela, devenir pape, là-dessus, il n'y a aucun souci. On va rester au Vatican avec un autre article publié par l'AFP à la fin du mois de mars, il y a quelques jours de cela. Repris encore une fois, j'ai encore l'article paru dans 20 minutes, mais lorsque vous êtes sur Internet et que vous lisez un article sur un site d'information logique, normal, on va dire, lorsque vous voyez par exemple Libération avec AFP, Figaro avec AFP, Le Point avec AFP, L'Humanité avec AFP, bon, bah, c'est l'AFP qui a fait l'article. Et puis le responsable de l'édition, qui est souvent un stagiaire dans ces maisons-là, bah, s'est contenté de faire un retour à la ligne. Et voilà, il a mis d'une certaine manière un peu en page l'article, mais c'est tout. Alors c'est une brève de l'AFP que je vous propose. Et on reste au Vatican, hein. Et vous le savez, au Vatican a été mis, suite à tous ces scandales de pédocriminalité au sein de l'Église, a été mis en place au sein du Vatican des commissions, plus particulièrement une commission qui s'appelle la Commission pontificale pour la protection des mineurs. Rien que ça. Et cette instance a été créée en 2014. Et il se trouve que on a appris la démission d'un de ses membres les plus influents. L'article que j'ai entre les mains s'intitule « Le membre le plus influent de la commission anti-pédocriminalité du Vatican démissionne avec fracas ». Publié le 29 mars dernier, que vous retrouverez en lien, bien évidemment, sur missnight.blogspot.com. Je vous lis l'article. Officiellement, le père Zöllner n'a pas quitté ses fonctions, Officiellement, le père Zöllner n'a quitté ses fonctions que pour en prendre d'autres, toujours au sein de l'Église. Mais le départ de ce membre influent de l'organisme du Vatican chargé de la lutte contre la pédocriminalité n'est pas passé inaperçu. L'Allemand Hans Zöllner a démissionné ce mois-ci avec fracas, relançant le débat sur l'efficacité de cette instance controversée depuis sa création en 2014. L'instance en question, c'est la Commission pontificale pour la protection des mineurs. Alors l'article de l'AFP d'abord nous avance les propos du président de cette commission, le cardinal américain Sean O'Malley, qui dit ceci: la Commission pontificale pour la protection des mineurs a appris que le père Hans Zöllner avait demandé à être relevé de ses fonctions, a annoncé donc le président de la Commission, Sean O'Malley, comme je vous le disais à cet instant. Ce départ a été accepté le 14 mars par le pape, avec ses profonds remerciements pour ses nombreuses années de service, et patati et patata, précise le cardinal. Mais qu'y a-t-il derrière ces déclarations de bon ton, de façade? Là, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que le père Zöllner en question a pris la parole et il a publié un communiqué sur un réseau social. L'article nous apprend donc ceci: le père Zöllner, jésuite comme le pape François, a eu pour sa part recours à un langage fort peu diplomatique pour dénoncer les dysfonctionnements au sein de la commission. Et cette fois-ci, l'article le cite. Lors de mon travail au sein de la commission, j'ai remarqué des problèmes auxquels il faut répondre en urgence et qui ont rendu impossible pour moi de poursuivre ma mission. La protection des enfants et des personnes vulnérables doit être au cœur de la mission de l'Église catholique, mais ces dernières années, mon inquiétude a grandi sur la manière dont la Commission a agi pour remplir cette mission. L'article rappelle que c'est une charge importante et elle est d'autant plus sévère qu'elle émane de l'un des principaux experts en matière de lutte contre la pédocriminalité au sein de l'Église catholique. Et l'article cite d'autres propos du père Zöllner. Cet universitaire reconnu et proche conseiller du pape critique notamment, citation, le manque de clarté dans le processus de sélection de ses membres et de son personnel, ainsi que la responsabilité financière jugée inadéquate. On va y revenir dans quelques instants, on en a déjà parlé dans une émission précédente, mais on va y revenir dans quelques instants, donc je ne détaille pas. Donc une responsabilité financière jugée inadéquate, et des informations insuffisantes et une communication très vague entourant le processus de décision. Ce sont des problèmes structurels et pratiques qui m'ont conduit à me dissocier de la commission, explique-t-il. Donc c'est tout de même assez inquiétant, hein. Une des personnes les plus en pointe en matière de lutte contre la pédocriminalité au sein de l'instance chargée de lutter contre la pédocriminalité au sein du Vatican, démissionne et parle vraiment de problèmes structurels et pratiques qui l'empêchent d'accomplir sa mission. Donc il y a quand même un gros, gros souci. On n'est pas plus surpris que ça, mais il y a une forme d'omerta qui perdure et qui apparemment empêche certains des membres de la Commission pontificale pour la protection des mineurs de travailler et de mener à bien leurs fonctions. L'AFP interroge ensuite le président de l'association italienne des victimes, Rete Labuzzo, qui s'appelle Monsieur Francesco Zanardi. Et il dit ceci: il estime que le Vatican lui fait payer le prix de ses déclarations courageuses qui vont à l'encontre des positions de l'Église. Et donc Francesco Zanardi dit ceci: il a toujours été très honnête. Je voudrais savoir s'il a démissionné de son propre chef ou s'il a été poussé à la démission. Jugeant à ce stade la commission pontificale, donc pour la protection des mineurs, absolument inutile. Absolument inutile. C'est le président d'une association de victimes de pédocriminalité au sein de l'Église qui le dit, qui estime que cette commission pontificale pour la protection des mineurs est inutile. L'article termine en nous apprenant que la démission du père Zöllner n'est pas la première démission au sein de cette instance. Il revient sur l'instance en question, donc la Commission pontificale pour la protection des mineurs, qui a été créée en 2014. Cette dernière, composée d'experts religieux et laïcs, et intégrée en 2022 à la Curie, le gouvernement du Saint-Siège, a été l'objet par le passé de sévères critiques. En 2016 et 2017, deux de ses membres, le Britannique Peter Sanders et l'Irlandaise Mary Collins, avaient aussi claqué la porte en dénonçant le manque de coopération du Vatican. L'omerta à tous les niveaux, et surtout mettre des bâtons dans les roues à celles et ceux qui veulent que justice soit faite.
de faïence relevés de nacre. Mon pinceau coupe le chine comme un cheval de fiacre. J'ai esquissé la lune sur une toile de nuit en laissant ma fortune aux clés du paradis.
À l'instant même avec La Route des Cyprès, très belle chanson où on entend Jean-Michel Brézovard faire les chœurs, et c'est pas rare à cette époque, mais quand même ça fait toujours plaisir d'entendre le petit filet de voix bien agréable de Jean-Michel Brézovard. La Nuit Noire sur Radio Libertaire, nous sommes en direct bien évidemment. On s'éloigne du Vatican et encore pas tant que ça, parce que l'article que j'ai entre les mains commence ainsi. Il s'agit d'un homme, d'un prêtre dont je vais vous parler. Il avait longtemps été bien en cours jusqu'au Vatican, la personne dont on va parler. Donc on s'éloigne du Vatican, on se rapproche de la France, on va au diocèse de Paris, même plus précisément, mais sans vraiment s'éloigner du Vatican, puisque il y a quand même, c'est un petit monde tout ça, hein, puis de plus en plus petit en plus, hein, parce qu'on est de moins en moins nombreux et nombreuses à croire en Dieu, donc c'est très bien. Alors c'est un article du Parisien daté du 17 janvier dernier, qui s'intitule « Diocèse de Paris, un prêtre psychanalyse soupçonné d'abus sexuels sanctionné à un procès canonique ». Vous le savez, l'homosexualité est interdite par la religion catholique. Hein. C'est clair et net, c'est un péché, il faut s'en débarrasser, il faut l'exhumer, l'exhorter, le faire sortir de soi, là, je ne sais plus comment on dit. Il faut l'extirper, hein, et il faut enfin, en tout cas, l'homosexualité, c'est atroce, c'est un péché, hein, c'est donc profondément interdit, etc. Je voudrais quand même le rappeler, parce que... Donc, si vous voulez, lorsqu'il est dicté par la religion catholique, et par quelque religion que ce soit, du reste, en passant, que l'homosexualité est un péché, bien évidemment, c'est une parole que doivent entendre celles et ceux qui sont les moutons, hein, qui suivent la parole qui est donnée. Mais également par celles et ceux qui sont les prêcheurs, ceux qui sont les prêtres, les évêques, les archevêques, les tout ce que tu veux, eux aussi, hein, ils sont porteurs de cette morale. Donc eux aussi, en toute logique, pour eux aussi, l'homosexualité est quelque chose qui est un péché, hein. Et on met même en place des instances, on sollicite des personnes, des psychanalystes, hein, notamment, pour faire en sorte que les catholiques qui seraient touchés par ce péché atroce qui s'appelle l'homosexualité, eh bien, puissent se délivrer de leur mal, hein, délivrons-nous du mal, voilà, se délivrer de leur mal, d'une certaine manière. On va toucher quand même, encore une fois, du doigt un summum d'hypocrisie. Diocèse de Paris, un prêtre psychanalyste soupçonné d'abus sexuels, sanctionné lors d'un procès canonique. Il avait longtemps été bien en cours jusqu'au Vatican. Considéré comme un spécialiste de l'adolescence, Tony Anatrella, c'est lui dont il est question, avait été associé à la rédaction de la brochure de la CEF, la Conférence des évêques de France, lutter contre la pédophilie en 2003. Ce prêtre, psychanalyste, soupçonné d'abus sexuels contre de jeunes hommes, a été contraint de cesser toute activité professionnelle et il lui a été enjoint de se retirer dans une vie de prière à l'issue d'un procès canonique indiqué mardi, donc c'était il y a quelque temps de cela, hein, un certain mardi, le diocèse de Paris. L'article du Parisien nous apprend également, je vais passer le deuxième paragraphe, où on apprend qu'il n'a pas été renvoyé à l'état laïque. Quelle sanction a été prononcée contre lui lors de ce procès canonique, on s'en fout un peu, nous ce qui éventuellement nous intéresserait, c'est que la justice des hommes puisse se prononcer sur le cas de ce prêtre. Ah bon, passons. Ce prêtre parisien de 81, je reprends la lecture, ce prêtre parisien de 81 ans avait déjà été interdit de tout ministère, confession ou activité thérapeutique en 2018 par Michel Aupetit, le Monseigneur Michel Aupetit. Une belle ironie. Dans tout ça, ironie soulignée par l'article du Parisien, puisqu'il rappelle que, l'article rappelle que, alors archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, est désormais visé par une enquête pour agression sexuelle sur personnes vulnérables. Rien que ça. Encore une fois, l'article continue sur les sanctions qui ont été prononcées à l'encontre de Tony Anatrella. C'est pas très intéressant, il doit plus participer à telle réunion publique, etc. Tout ça, on s'en fout un petit peu. Revenons un petit peu sur l'affaire en elle-même. C'est en 2001 que débute l'affaire. Un ancien séminariste, vient se confier à Lustiger, au cardinal Lustiger, alors archevêque de Paris. Dans les années 1980, il est venu consulter Tony Anatrella pour traiter ses, entre guillemets, pulsions homosexuelles. Le prêtre lui a proposé alors d'étranges séances de thérapie corporelle. Et là, on cite donc cet ancien séminariste. Dès la première séance, il a pratiqué sur moi des gestes masturbateurs. Et petit à petit, ces gestes sont allés jusqu'à des relations sexuelles. Il disait qu'il fallait soi-disant dépasser mes pulsions homosexuelles par ces pratiques pour m'en libérer. Raconte à l'époque cette victime présumée qui, faute de réaction, finit par rendre publique son histoire 5 ans après dans la revue catholique critique Goliath. Au printemps 2016, des accusations avaient été mises en lumière à l'encontre du prêtre parisien soupçonné de thérapie déviante sur de jeunes hommes dans son cabinet de psychanalyste. Le cardinal André 23 avait encouragé les potentielles victimes à porter plainte contre ce prélat. Bon, très bien. 3 plaintes, justement, devant la justice républicaine pour agression sexuelle n'avaient pas abouti en 2008, notamment parce qu'il y avait prescription. Plusieurs accusateurs s'étaient ensuite tourné vers la justice de l'Église. Là, je ne sais pas ce qu'il en est de la prescription pour la justice de l'Église, mais enfin, même s'il n'y a pas prescription pour la justice de l'Église, on a vu avec les 2 articles précédents, et puis je vous renvoie à l'ensemble des émissions Nuit Noire consacrées à la thématique, que la justice de l'Église, en ce qui concerne les actes de pédocriminalité, bon, elle est plutôt laxiste, hein, il n'y a pas trop de soucis. Donc, plusieurs accusateurs s'étaient ensuite tournés vers la justice de l'Église. Pour François Devaux, dont l'association La Parole Libérée a porté le glaive dans le scandale de pédophilie Barbarin Prénat, ce procès canonique ne tombe pas par hasard, il est le signe que l'Église cherche à donner des gages de sa bonne volonté avant le prochain épisode de scandale sexuel qui la guette. Ça fait vraiment froid dans le dos. Voilà. Encore une fois, un beau sommet d'hypocrisie lorsque celui qui est chargé de permettre, hein, permettre entre guillemets, hein, bien sûr, à ceux plus précisément, d'ailleurs, j'allais dire à celles et ceux, mais à ceux de ses disciples, de ses ouailles, de son troupeau. Hein. Pardon, c'est un peu méprisant quand je dis ça, mais enfin, en termes de mépris, pardon. Hein. Le mépris que portent les anarchistes à la religion, si vous inversez, si vous faites une lecture dans l'autre sens, le mépris que les religieux accordent aux gens qui ne croient pas en Dieu, oh là là là, allez regarder sur les réseaux sociaux, vous verrez, c'est affreux. Donc oui, mépris, son problème, son troupeau. Donc lorsque des gens du troupeau sont atteints par ce mal absolument atroce, ce péché qui s'appelle l'homosexualité, il y a des gens spécialisés au sein de l'Église pour les aider à retrouver le droit chemin. Bon bah voilà, parmi ces gens chargés d'aider les gens à retrouver le droit chemin pour sortir de cette horreur qui s'appelle l'homosexualité, parmi eux, il y a des gens qui expliquent que pour s'en libérer, eh bien, il faut se laisser branler, hein, tranquillement. Et puis ensuite, écoute, on va aller un tout petit peu plus loin, mais tout ça, tu comprends, c'est exutoire. Hein, c'est pour te permettre de délivrer du mal. Quelle belle hypocrisie. Voilà, article du Parisien, daté du 17 janvier dernier, diocèse de Paris, un prêtre psychanalyste soupçonné d'abus sexuels sanctionné. Et bien sûr, le lien vers cet article sera disponible sur le site missnight.blogspot.com. Nous faisons une petite pause et je vous parle encore une fois d'un autre scandale de pratiques mystico-érotiques au cœur de l'Église française. Tout ça, les nouvelles que je vous rapporte, c'est uniquement le premier trimestre. Hein, et je vous renvoie à l'écoute des émissions précédentes pour voir que, eh bien, de trimestre en trimestre, les affaires éclatent les unes après les autres. Et ça fait beaucoup de grains à moudre. Hein, beaucoup, beaucoup.
Daddy's hand, but that was all in some distant land. Blazer and tie, and a big bright healthy smile used to make all of our trials worthwhile. Used to be a sweet boy, and I'm not to blame, but something went wrong, and I know I'm not to blame. Something went wrong, can't be to blame.
Maurice, à l'instant même, avec Used to be a sweet boy sur le sublime album Vox Solenae. À l'instant même. Alors, c'est une affaire qui, lorsqu'on s'intéresse un peu à l'actualité des religions, c'est une affaire qui a fait pas mal parler ces derniers temps. Je vais vous parler de l'affaire des frères Philippe, Thomas et Marie-Dominique Philippe. Et puis qui mêle aussi Jean Vanier. Jean Vanier, c'est pas n'importe qui, c'est le fondateur d'une instance, d'une ça va être une association au sein de l'église qui s'appelle l'Arche. L'Arche, moi-même qui ne suis pas un catholique du tout, mes parents ne sont pas catholiques, pas religieux du tout d'ailleurs du reste, moi-même qui ne suis absolument pas catholique, l'Arche, j'en ai déjà entendu parler, hein, c'est une association qui s'occupe notamment de personnes handicapées. Et donc, depuis quelque temps, on entend parler de cette affaire-là, des frères Philippe. Et je cherchais un article un peu précis sur lequel m'appuyer pour savoir de quoi il en retourne. Il y a beaucoup d'articles qui sont publiés par le journal chrétien La Croix, mais la plupart sont réservés aux abonnés. Vous pourrez éventuellement vous en douter ou le subodorer. Je ne suis pas abonné à La Croix, ni à La Vie. Hein. Bon, voilà, c'est bien en passant. Et donc, du coup, c'est rare de pouvoir trouver un article un peu précis et libre d'accès, parce que c'est quand même important, sur cette affaire. Mais j'en ai trouvé un le 31 janvier dernier, qui est publié par La Libre, un site belge, et qui s'intitule « Scandale en France, des pratiques mystico-érotiques au cœur de l'Église ». Avec un petit chapeau, deux enquêtes sont publiées cette semaine, donc c'était il y a un petit moment maintenant, en France. Elles dévoilent les pratiques mystico-érotiques des fondateurs de l'association L'Arche. Je vous lis l'article, avec quelques commentaires ici ou là, bien évidemment. En 2020, l'affaire fit grand bruit au sein de l'Église catholique. Jean Vanier, figure spirituelle catholique très appréciée, décédée un an plus tôt, était accusé d'agression sexuelle dans un premier rapport. Suite à une nouvelle enquête indépendante commandée par l'association L'Arche et publiée donc à la fin du mois de janvier, ce scandale apparaît plus vaste qu'imaginé. L'Arche, une fédération d'associations fondée par Jean Vanier et qui accueille dans 38 pays des personnes ayant une déficience intellectuelle, je m'étais trompé tout à l'heure, là on parle de déficience intellectuelle, je vous demande pardon pour cette erreur en présentation de l'article, donc je reprends. Donc cette association fondée par Vanier et qui accueille dans 38 pays des personnes ayant une déficience intellectuelle avait en effet dévoilé en février 2020 un rapport interne mené par un organisme indépendant affirmant que Jean Vanier avait eu avec 6 femmes adultes et non handicapées, ça c'est important de le préciser, on va pas inventer des choses, hein. Les faits sont déjà absolument atroces, il est important de noter que les faits dont il va être question ont été commis, les méfaits d'ailleurs, ont été commis à l'encontre de personnes qui n'étaient pas des personnes vulnérables, voilà, c'est quand même important de le préciser. Tout de suite, je suis contredit par ce que je viens de dire, contredit dans ce que je viens de dire, affirmant que Jean Vanier avait eu avec 6 femmes adultes et non handicapées, dont certaines vulnérables, pardon, donc voilà, la vulnérabilité ne concerne pas leur situation de handicap, mais une autre vulnérabilité. Il est dit ceci, donc, il avait eu avec 6 femmes adultes des relations sexuelles généralement dans le cadre d'un accompagnement spirituel et dont certaines ont gardé de profondes blessures. Ça, c'est une dimension qui me semble assez importante, le fait que ces agressions sexuelles, hein, on parle de relations, mais là, en l'espèce, lorsque ce n'est pas consenti, c'est une agression, ces relations et ces agressions ont eu lieu dans le cadre d'un accompagnement spirituel. Et c'est là, sans doute, que la notion de vulnérabilité intervient. C'est-à-dire qu'autant il ne s'agissait pas... probablement, d'après ce qui est dit dans l'article, de personnes souffrant d'une déficience intellectuelle, mais en revanche, de personnes qui étaient dans un parcours d'accompagnement spirituel. Et lorsqu'on est dans un parcours d'accompagnement spirituel, sans doute qu'il y a une position, il y a une part de faiblesse, une part de vulnérabilité, et qui est accentuée par le fait que celui qui va commettre ces méfaits est dépositaire de l'autorité religieuse. Je vous renvoie à l'écoute d'anciennes émissions, mais c'est une chose qui revient très régulièrement dans le témoignage, où on a des gens qui ont été victimes d'actes pédocriminels ou d'actes d'agression sexuelle, pas forcément pédocriminels, qui expliquent à quel point il était difficile pour elles et eux d'en parler, dans la mesure où la personne qui les agressait était quelqu'un dont on ne peut plus reconnu, dont on ne peut plus respecter. Détenteur de la foi, celui qui est là pour dire le bien et le mal, hein, la figure religieuse, donc forcément incontestable et intouchable. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment une notion sur laquelle il faut aussi insister. lorsqu'on est dépositaire de cette autorité comme ça, en l'utiliser, en abuser pour commettre des agressions sexuelles, c'est absolument répugnant, bien évidemment. Lundi 30 janvier, une commission d'études indépendantes mise en place en novembre 2020 par l'Arche internationale et composée de 6 chercheurs a rendu ses conclusions qui portent aussi sur le dominicain Thomas Philippe, l'aumônier de l'Arche et père spirituel de Jean Vanier, décédé en 1993. Ce document de 900 pages, transmis à la presse, révèle que 25 femmes majeures, célibataires, mariées ou consacrées, non handicapées, encore une fois j'insiste parce qu'il faut être, c'est pas la peine d'en rajouter quoi, il faut quand même être précis et puis quand même ne pas les accabler trop. Ils nous accablent, nous, hein, y a aucun souci, mais soyons un petit peu moins cons qu'eux et ne les accablons pas, soyons précis dans les faits rapportés. Donc ce document de 900 pages, transmis à la presse, révèle que 25 femmes majeures, célibataires, mariées ou consacrées, non handicapées, ont été identifiées pour avoir, entre guillemets, vécu à un moment de leur relation avec Jean Vanier, une situation impliquant un acte sexuel ou un geste intime entre 1952 et 2019. 25 femmes. Certaines se sont présentées comme victimes d'une relation abusive, d'autres plutôt comme des partenaires consentants d'une relation transgressive. Encore c'est important ce petit distinguo qui relativise, mais en même temps il faut aussi être fidèle à la parole qui est rapportée par les gens. On ne peut pas en rajouter, c'est pas la peine, hein. Restons de bonne foi alors que nous n'en avons pas. Bref, donc certaines se sont présentées comme victimes, d'autres plutôt comme des partenaires consentants d'une relation transgressive. Ces relations s'inscrivent toutes dans un continuum de confusion, d'emprise et d'abus, a précisé l'Arche dans un communiqué distinct. Je pense que les oui, c'est encore le rapport de l'Arche qui dit ceci: emprise, abus sexuel, délire collectif, dévoiement de notions au cœur du christianisme, représentation incestueuse des relations entre Jésus et Marie, ont été les mécanismes déployés à la fois par Jean Vanier, fondateur de l'Arche, et Thomas Philippe, qui est donc le curé, comment il l'appelle, l'aumônier de l'association L'Arche. Dans le communiqué, les responsables de l'Arche internationale, l'association Stephen Posner et Stacy Cates Carney, ont exprimé leur consternation et condamné sans réserve les agissements des deux hommes. L'Arche reconnaît sa responsabilité de n'avoir su ni prévenir ces abus, ni les repérer, ni les signaler, et par conséquent, ni les faire cesser, écrit l'association, qui souligne cependant que les personnes accueillies dans le cadre de leur maison n'ont pas été impliquées ni touchées dans ces pratiques. C'est important de le préciser. Concordance des calendriers, ce 1er février, aux éditions du Cerf, l'historien Tanguy Cavalin publie en France une autre et importante enquête expliquant la manière avec laquelle le dominicain Thomas Philippe et son frère dominicain aussi, Marie-Dominique, ont pu pendant des décennies, mettre en place un véritable système d'abus spirituels et de violences sexuelles. Dans cet ouvrage intitulé « L'affaire, les Dominicains face au scandale des frères Philippe », l'auteur enquête pour savoir comment l'ordre religieux des Dominicains, duquel relevaient les deux frères, a pu ignorer ce système d'emprise. Il est dit ceci, c'est l'hebdomadaire La Vie qui est rapporté par La Libre et qui dit ceci. L'historien, donc Tanguy Cavalin, l'historien décortique la mécanique ayant permis aux deux hommes, les frères Philippe, condamnés par Rome en 1956 et 1957, de poursuivre leurs abus spirituels et sexuels pendant plus d'un demi-siècle et fonder une véritable nébuleuse sectaire d'initiés dont le plus tragiquement connu d'entre eux est Jean Vanier, écrit l'hebdomadaire français La Vie, qui a pu lire cet ouvrage de 730 pages. Donc l'ouvrage, en l'espèce, c'est, comme je vous le disais, ce livre, L'affaire, les Dominicains face au scandale des frères Philippe, écrit par l'historien Tanguy Cavalin. Les deux frères Philippe, explique l'auteur, ont pu profiter des failles de l'institution ecclésiale pour renvoyer les niveaux d'autorité dont ils dépendent dos à dos dans un art consommé de la manipulation. Le résultat est accablant car à tous les niveaux, les pouvoirs vont se montrer inopérants, résume La Vie. On parle de mafieux. Hein. Tout à l'heure, j'employais le mot mafia. Léo l'emploie pour parler des... des cocatrix, moi je l'emploie pour parler de l'église catholique et puis de toutes les églises, hein, d'ailleurs, hein, l'église musulmane, l'église juive, l'église bouddhique, l'église, tout ce que vous voulez, n'importe laquelle. Même les pastafariens, ils sont limites des fois. Hein. Bon, bref, passons. Par ailleurs, l'auteur, donc Tanguy Cavallin, là on va vraiment rentrer dans le truc un peu glauque, hein, je vous préviens tout de suite. L'auteur souligne les mécanismes d'un système sectaire fondé par une gnose érotico-mystique perverse. On découvre que, ça c'est cité, Thomas Philippe entretient depuis au moins 1942 des relations sexuelles avec des femmes qui l'accompagnent spirituellement, assorties de justifications théologiques, dans une emprise spirituelle très profonde, synthétise de son côté Lacroix. Bon, très bien. Au départ, plusieurs scènes collectives ont eu lieu, mais par la suite, c'est au sein d'accompagnements individuels que se vivent ces « prières ». Des guillemets sont mis par la croix, où Thomas Philippe va jusqu'à demander à l'initié, il y a un E à initié en espèce, écoutez bien, de boire son sperme, en lui disant qu'ainsi il boit au cœur de notre Seigneur. C'est pas mal quand même, hein ? C'est pas mal, faut le faire quand même, quoi. Hein ? Je veux dire, à un moment, faut... voilà. Encore une fois, je parlais de cette emprise et puis de mêler les préceptes religieux à leurs méfaits, quoi. Et lorsque donc celui qui est l'aumônier de l'association L'Arche, qui est une association importante, reconnue au sein de l'Église, lorsque cet aumônier a sous sa coupe certaines de ses fidèles, les met sous une forme d'emprise spirituelle très profonde, comme l'écrit la croix, hein. C'est pas moi qui parle, c'est la croix, et qu'on a affaire à un véritable système de mafieux, hein, vraiment de traite d'êtres humains, véritablement. Lorsqu'il y a des gens et dont il s'occupe et qui viennent pour essayer d'accompagner dans un parcours spirituel, à un moment il leur explique, écoute, maintenant tu vas boire mon sperme, et en buvant mon sperme, eh bien tu vas boire ainsi au cœur de notre Seigneur. Quelle bande d'ordures, quoi. Quelle bande d'ordures. L'enquête témoigne notamment qu'un avortement a eu lieu en 1947. Anne de Ronzambo, membre du cercle étroit autour de Thomas Philippe, était tombée enceinte. Fort de son aura spirituelle, Thomas Philippe jouait d'une emprise psychologique, de concepts théologiques flous et complexes, pour soumettre ses victimes. Voilà, on parlait, parce que l'article est fini, là, on parlait, c'est un article de La Libre qui s'intitule « Scandale en France des pratiques mystico-érotiques au cœur de l'Église catholique ». On parle d'une association qui s'appelle L'Arche, qui fait figure quand même, qui est importante, qui est reconnue, qui est établie. Et on parle de non seulement de son fondateur, hein, à qui il est apparemment... Il est reproché d'avoir eu des relations avec 25 femmes majeures. Ça, c'est son fondateur. Et quant à son aumônier, eh bien, il éjacule dans la bouche de ses victimes en leur disant « Ça, c'est le cœur du Christ, là, que tu es en train de boire. » Immonde. Immonde. Là. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste sur 89.4 FM et www.radio-libertaire.net. C'est la nuit noire, une petite respiration. David Elmalek à l'instant même avec la chanson, enfin oui, le titre If I Could, qui est un extrait de son album Traveling, qui est sorti il y a quelques jours de cela. David Elmalek, qui sera l'invité du Ferré Club mercredi en 8, non pas après-demain, mais la semaine prochaine. On va parler de l'indemnisation des victimes. Suite au rapport de la CIAZ, la commission d'enquête menée, qui a établi que 330 000 enfants avaient été victimes de pédocriminalité au sein de l'Église, 220 000 par des prêtres, 110 000 par des laïcs, mais enfin ça fait 330 000 enfants entre 1950 et aujourd'hui qui ont été victimes de pédocriminalité au sein de l'Église. Ce rapport de la commission Sauvé, qui avait établi que après le cercle familial et le domaine et le cercle amical, l'Église est le troisième lieu qui connaît le plus d'actes pédocriminels. Et avant d'en parler, puisque on va parler un petit peu de l'indemnisation, je voudrais vous renvoyer à l'écoute de l'émission d'il y a quelques temps de cela, je ne me rappelle plus la date, mais c'est une des dernières émissions, qui s'appuyait notamment sur le documentaire établi par nos confrères de France 2 de l'émission Complément d'enquête. Je vous en avais diffusé un extrait, notamment la parole d'un monsieur qui s'appelle Antoine Garapon, qui est le président d'une des deux commissions chargées de la réparation financière auprès des victimes, et un extrait que je vous avais diffusé, notamment où on entendait très bien, premièrement, monsieur Garapon minimiser un maximum la parole des victimes, minimiser, donc quand je dis la parole des victimes, c'est les actes qu'il rapportait. Ensuite, minimiser le besoin d'indemnisation. Je vous rappelle ses paroles où il disait, finalement, il s'adressait à des victimes qu'il rencontrait lors d'un entretien. Il disait à cette victime, finalement, une aide financière, c'est pas grand-chose, hein, vous vous êtes reconstruit autrement, etc., etc. Bref, on le voyait, ce monsieur Garapon, faire freiner lui-même des cas de fer, ce travail de réparation financière. Et en tant que président d'une des deux instances chargées de cette réparation, on pouvait être effectivement un peu inquiet. Au début du mois de mars, des chiffres nous ont été donnés par l'Église, et notamment par l'une des deux instances, l'INIRR, qui est l'Instance Nationale Indépendante de Reconnaissance et de Réparation, qui n'est pas celle présidée par Garapon, celle présidée par Antoine Garapon, c'est la CRR, c'est la Commission Reconnaissance et Réparation. On a eu des chiffres concernant donc l'INIRR, concernant le nombre de victimes qui ont été indemnisés, mais au-delà de cette indemnisation, on en sait un peu plus. On a sur les méfaits qui ont été commis et sur les victimes. C'est un article de l'AFP repris par les DNA, Dernière Nouvelle d'Alsace, qui a été publié le 9 mars dernier et qui s'intitule « Pédocriminalité dans l'Église, 131 victimes ont eu une réparation financière ». 131 victimes, retenez bien ce chiffre. Pardon. En 2022, 131 victimes de pédocriminalité dans l'Église ont obtenu une réparation financière pour un montant moyen de 38 000 euros, selon le premier rapport annuel de l'Instance Nationale Indépendante de Reconnaissance et de Réparation, l'INIRR, publié ce jeudi, donc il y a quelque temps de cela, c'était un de ces jeudis derniers, au début du mois de mars. L'article revient sur la nature de cette structure, je vais sauter, vous la connaissez, je vous renvoie aux émissions précédentes, pas de souci. Ensuite, l'article détaille un petit peu. Alors d'abord, le nombre. Au 31 décembre 2022, 1133 personnes s'étaient adressées à l'INIRR, dont 69% d'hommes, selon le rapport transmis à la presse, la moyenne d'âge est de 63 ans. Toujours à cette date, donc au 31 décembre, donc je vous rappelle, 1133 personnes se sont adressées à l'INIRR Et toujours à cette date, au 31 décembre, 142 personnes avaient obtenu une décision du collège de l'INIRR après traitement de leur situation et accompagnement par un référent. Sur ces 142 personnes ayant obtenu une décision, 131 ont demandé et obtenu une réparation financière selon le rapport. On est sur un ratio quand même assez faible. Hein, 1133 personnes qui s'adressent à l'INIRR, qui sont accompagnées, donc c'est pas des farfelus qui viennent essayer de tirer un petit bifton, hein, c'est quand même des gens qui ont déposé un dossier, etc., etc. 131 personnes ont obtenu une réparation financière sur les 1133 personnes. Je fais une petite aparté, je vous renvoie encore une fois à l'émission autour de ce complément d'enquête qui était fort intéressant. On apprenait dans ce documentaire qu'une des victimes, qui avait été violée à l'âge de 10 ans, qui avait perdu son pucelage anal à l'âge de 10 ans, pardon pour ces détails un peu glauques, mais c'est comme ça, il lui avait été proposé comme indemnisation, comme réparation, signe de la reconnaissance, il lui avait été proposé de payer ses frais de vétérinaire. Vous voyez un peu le degré de mépris quand même. Bon, bref. Donc, 131 personnes ont obtenu une aide financière. Alors, ensuite, l'article nous précise un peu les montants. Le montant moyen de la réparation, donc c'est le rapport qui nous apprend ça, le montant moyen de la réparation financière était de 38 000 euros. 33 se sont vus accorder le montant de 60 000 euros, c'est-à-dire le montant maximum, 33 personnes. Et dans le détail, 34% des personnes victimes ont reçu entre 40 000 et 60 000 euros, 34%. 48% des personnes ont obtenu entre 20 000 et 39 000, et 18% entre 9 000 et 19 000. Donc encore une fois, hein, ces pourcentages, 34%, 48%, 18% de 131 personnes. 131 personnes. Sur les 1133 qui se sont adressés à l'INRR, 131 personnes se sont vues accorder un dédommagement, une réparation financière. Et sur ces 131 personnes, eh bien, le détail que je vais donner, qui n'est pas hyper intéressant, sur lequel je ne reviens pas, mais enfin, lorsqu'on parle de pourcentage, 48% de 133 personnes, ça fait un peu plus de la moitié, je ne sais pas, 60, un peu plus de 60 personnes. Ensuite, et c'est là que ça devient quand même un peu plus intéressant, ce que nous apprend le rapport, ce sont les méfaits qui se sont vus accorder une réparation financière. Le rapport montre que plus de 60% des situations étudiées en collège concernent un ou des viols. Un ou des viols. La majorité des violences sexuelles portées à la connaissance de l'INIRR sont graves et s'inscrivent dans le temps. 58% des situations de violences sexuelles se sont poursuivies plus d'un an. 58% plus d'un an. Et 21% ont duré plus de 5 ans. 21% plus de 5 ans. Plus de 5 ans de sévices pédocriminels. Hein ? Voilà. Et puis un dernier point qui est tout de même important sur ce détail qui est fait, avant d'autres, mais là il y a un point qui est soulevé, c'est l'âge des victimes. Et le rapport de l'INRR nous apprend que ces victimes qui ont été indemnisées se sont vues indemnisées pour des cas de violences sexuelles, éventuellement pédocriminelles, mais pour sûr pédocriminelles. L'âge des victimes au moment des actes était, il est écrit ainsi, est polarisé entre 6 ans et 15 ans. Entre 6 ans et 15 ans. Je vous rappelle, tout à l'heure, je parlais quand même de l'homosexualité qui est interdite. Je rappelle également que la sexualité, tout court, hein, sans le préfixe homo, la sexualité tout court est interdite aux gens de la religion catholique. Bon, voilà. Donc, l'âge des victimes au début des violences sexuelles est polarisé entre 6 ans et 15 ans. Par ailleurs, 24% des violences sexuelles se sont déroulées dans le cadre scolaire, dont internat, 17% au catéchisme ou dans une aumônerie, et 16% dans des mouvements de jeunesse. L'INIRR a par ailleurs proposé aux victimes une réparation symbolique, médiation réparatrice, art-thérapie, bibliocréativité, etc. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Dernier mot dans l'article de l'AFP, repris par les dernières nouvelles d'Alsace. Alors que des collectifs de victimes ont critiqué la lenteur à leurs yeux de la montée en charge du dispositif, la présidente de l'INIRR, Marie Derain de Vaucresson, n'est-ce pas, a souligné auprès de l'AFP l'hyper-personnalisation mise en place par son équipe, s'agissant à la fois de l'accompagnement et de la construction des réponses. Et elle ajoute, parce qu'elle est tout de même, elle a compris que son beau discours pouvait marcher, mais qu'à l'épreuve des faits, il ne résisterait pas très longtemps. Elle ajoute, on n'est pas exempt ni de critiques, ni de points à améliorer. Absolument, madame. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est hein, de l'INIRR. Enfin, on a vu, grâce aux confrères de France 2, et plus particulièrement de compléments d'enquête, on a vu à quel point la commission réparation et reconnaissance et réparation, la CRR d'Antoine Garapon, avait-elle un sens très particulier de ce que Marie Derain de Vaucresson appelle l'hyper-personnalisation. Oh, c'était pas si grave que ça, hein. Tu t'es reconstruit par d'autres moyens que l'argent, t'en as pas besoin. Oh, bien, et puis voilà, c'était une erreur peut-être, hein. Et puis, quelque part, c'est un peu toi le responsable, hein. T'as réussi à te reconstruire, t'as réussi à te délivrer du mal. Quel mal j'ai fait, j'ai été violé toute mon enfance. Oui, mais enfin, tu l'avais peut-être un peu cherché. C'est un peu ça, hein. Entre les lignes, c'est un peu ça quand même, dans le discours d'Antoine Garapon. Un peu. J'exagère peut-être un peu. Je vous renvoie au visionnage de l'excellent numéro de complément d'enquête qui avait été fait à cette occasion. Et puis, il y avait notamment, dans les apartés proposés par, France Télévisions, un très long article sur lequel je m'étais très longuement attardé sur les moyens financiers dont dispose l'Église catholique, qui sont absolument colossaux. Je vous renvoie à l'écoute des précédentes éditions. On va passer à des petites choses en bref pour finir tranquillement. Ben, la fin, vous le savez, hein, c'est toujours une bonne nouvelle plutôt. Alors cette semaine, la bonne nouvelle sera pas un peu anecdotique, hein, mais quand même, elle va dans le sens évident, dans le sens de l'histoire, j'ai envie de dire, hein, avec du parti pris, j'en conviens, mais dans le sens de l'histoire, la religion recule chez les gens, et c'est une très bonne nouvelle. On va passer à des petites choses en bref, mais je vais commencer avant, on va faire peut-être une pause musicale, on va écouter Dominique A, mais peut-être vous dire, parce que j'avais parlé de Ricard, Jean-Pierre Ricard, le cardinal Ricard, ancien président de la conférence des évêques de France, ancien archevêque de Bordeaux et évêque de Montpellier de 96 à 2001, qu'il était visé par une enquête pour agression sexuelle aggravée. Eh bien, les faits sont prescrits. Et on a appris donc le 25 février dernier, par l'intermédiaire d'un article de la Midi Libre, que j'ai entre les mains, que l'agression pour agression sexuelle visant donc le cardinal Jean-Pierre Ricard avait été classée sans suite vendredi 24 février pour prescription. Pardon. Jean-Pierre Ricard avait reconnu auprès de sa hiérarchie catholique avoir commis des abus sur une mineure, des faits qui se seraient déroulés 35 ans auparavant alors qu'il était en poste à Marseille au début de sa carrière. Les aveux du cardinal Jean-Pierre Ricard remontent au 7 novembre dernier dans une lettre où il reconnaissait une démarche difficile, mais ce qui est premier, c'est la souffrance vécue par les personnes victimes, la reconnaissance d'actes commis sans vouloir cacher ma responsabilité. Bon, très bien. Selon les informations de France Info, Jean-Pierre Ricard, aujourd'hui âgé de 78 ans et retiré dans un presbytère des Alpes de Haute-Provence, on salue les Alpes de Haute-Provence, avait été placé en garde à vue le 2 février 2022 par les gendarmes de la section de recherche de Marseille. Lors de sa garde à vue, il avait reconnu avoir embrassé la jeune fille, l'avoir enlacée et caressée par-dessus ses vêtements sans rapport sexuel. Bon, pardon, mais caresser un corps, même si c'est par-dessus les vêtements... Bon... Ok, appelle pas ça un rapport sexuel si tu veux, mais enfin la démarche elle l'est quand même. Des faits qui auraient duré 3 ans selon la victime qui a finalement déposé plainte et avec qui il a été confronté lors de sa garde à vue dans un courrier. Le cardinal écrivait « Mon comportement a causé des conséquences graves et durables ». Oui, bien sûr monsieur, je lui ai demandé pardon. Oh la belle jambe que ça lui fait. Je renouvelle ici ma demande de pardon. Ah ben c'est très bien, ainsi qu'à toute sa famille. Elle est contente la famille. Il annonce également prendre un temps de retraite et de prière. Ben qu'on en est content pour lui. Nous haïssons la prison, donc moi je n'irai pas plus loin dans la considération, mais très bien, de son temps de retraite dans les Alpes de Haute-Provence, bah écoutez, c'est parfait. Donc il prend un temps de prière, il avait présenté sa démission en 2019, pour raison d'âge, hein, non pas pour parce qu'il avait un petit... Il était en train de se dire, bah j'ai peut-être quand même fait des... En m'attaquant à cette jeune fille mineure, je vais peut-être présenter ma démission, j'ai quelques petits remords maintenant, et puis... Allez, non, c'était pour des raisons d'âge qu'il avait présenté sa démission en 2019, il avait atteint les 75 ans. Et l'article du Midi Libre rappelle que le rapport Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Église avait estimé à 330 000 le nombre de victimes de prêtres, diacres, religieux ou personnes en lien avec l'Église depuis 70 ans, agressées lorsqu'elles étaient mineures. C'est beau, hein? C'est la religion, messieurs, dames. C'est la morale. Et ben, libre à vous de suivre les gens qui vous édictent les préceptes de la religion. Hein, libre à vous. Hein. Moi, libre à moi de ne pas les suivre, mais libre à vous de les suivre. Mais je vous demande de vous renseigner un tout petit peu sur ces gens et leur certaine idée de la morale. Allez, on va faire du en bref. Et peut-être je dirai un petit mot sur le Dalai Lama. Hein, parce qu'on en a parlé. On a passé un coup de fil l'autre jour, une amie de l'émission dont je ne donnerai pas le nom, mais qui m'a dit « T'as vu ce mec, Dalai Lama ?» Oui, le Dalai Lama, oui, bah, quand il est devant les caméras, vous avez vu, même devant les caméras, hein, il demande à un petit garçon de lui lécher la langue. Vous imaginez quand il n'y a pas de caméra ?
Les yeux gonflés de sommeil, l'amour ce bonheur est sans pareil, l'amour nous nous perdons dans le jour.
Même avec la chanson intitulée L'amour, on entend la voix de Françoise Breut au début. C'est très agréable. Comme on regrette ce duo informel et très formel. Paru sur l'album Remuer, je crois. Je ne suis pas hyper sûr, mais je crois. Très, très. peut-être. Ah non, d'ailleurs, c'est même pas remué. C'est pas sur remué. C'est peut-être sur Je suis une ville. Je sais plus. C'est marqué quelque part. Non, c'est pas marqué quelque part. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. Alors, quelques petites nouvelles. En bref, 24 janvier, le point avec AFP, agression sexuelle, un religieux renvoyé à l'état clérical par le pape. Je vous traite que les cas français. Hein. Je pourrais vous en traiter d'autres en Allemagne, en Espagne, au Pérou, où tu veux. Alors, je m'intéresse aux cas français. Qu'est-ce qu'il y en a? Ça tombe quasiment toutes les semaines, t'en as deux ou trois. Donc en janvier, 24 janvier, un religieux renvoyé à l'état clérical par le pape, un religieux des frères de Saint-Jean, dont le nom est donné, je vais passer son nom parce que, bah voilà, tiens, ouf, qui avait fait l'objet de signalements pour graves. Je donne son nom, alors, grave agression sexuelle, ouais. Benoît Emmanuel Peltro-Villeneuve, il s'appelle, bon. Avait fait l'objet de signalements pour graves agressions sexuelles, a été renvoyé à l'état clérical par le pape, a annoncé l'Institut catholique dans un communiqué le mardi 24 janvier. Les faits reprochés remontent aux années 90 pour les plus anciens, donc les plus récents, on ne sait pas, sont nombreux et graves. Notamment dans le cadre de l'accompagnement spirituel des sœurs de Saint-Jean et de femmes majeures. Encore une fois, l'accompagnement spirituel, encore une fois, l'emprise. Benoît Peltro-Villeneuve avait été prieur, donc supérieur d'un couvent, à Genève pendant 12 ans, entre 88 et 2008, et organisateur d'événements importants, comme le festival Agapé. Ouais, Festival international de musique et d'art sacré, selon la même source. Il en a même été le créateur, j'ai lu quelque part, donc Benoît Emmanuel Peltro-Villeneuve, renvoyé à l'état laïque. C'est pareil, hein, l'Agapé, je connais l'Arche, je connaissais, j'avais entendu parler de cette association, et c'est pareil, le Festival Agapé, ça me dit quelque chose, alors je connais pas, mais je pense que ça a pu arriver jusqu'à mes oreilles d'impie et d'anticlérical chevronné, donc c'est quand même un truc qui est important, quoi, hein, qui donne assez d'écho pour que des impies et des anticléricaux de mon rang connaissent jusqu'à l'appellation Agapé. Donc voilà, encore une fois, 24 janvier 2023, c'est tout récent. Qu'est-ce que j'ai d'autre en bref? Une procession religieuse organisée à Perpignan et puis à je ne sais plus où pour invoquer la pluie. ils sont magnifiques ces gens, quoi. Le miracle aura-t-il lieu? Se demandent nos confrères d'Actu Perpignan. Face à un manque cruel de précipitation des Perpignanais et des Perpignanaises aussi, j'imagine, mais enfin c'est au masculin, et des habitants et habitantes, j'imagine, des communes alentours, ont organisé samedi une procession avec Godéric, le saint patron des agriculteurs catalans. Dans le département, là, on s'est toujours dit, s'il ne pleut pas, il faut invoquer Saint Godéric en catalan. Instinctivement, je suis allé à la cathédrale, raconte un viticulteur, un dealer de drogue légale, un viticulteur d'un média local. Donc effectivement, lorsqu'un dealer de drogue légale va dans une église, on est dans le pléonasme, un tout petit peu. Enfin, c'est comme ça. Du Moyen-Âge à la Révolution, de nombreuses processions ont eu lieu dans ce département. Du Moyen-Âge à la Révolution, ouais, du Moyen-Âge, je veux bien, mais on est en 2023. Je veux bien que tu parcours les rues de la butte Hocaille ou de la butte Chaumont ou de ce que tu veux pour invoquer la pluie, mais enfin, on est en 2023, réveille-toi, quoi. Les textes auxquels tu crois, ils ont été écrits il y a plus de 2000 ans. Tu fais ce que tu veux, c'est ta liberté, si t'as envie de déambuler dans les rues de ta ville pour invoquer la pluie, fais-le. Mais permets-moi d'en rire, s'il te plaît. Donc, du Moyen-Âge à la Révolution, de nombreuses processions ont eu lieu dans ce département. Aujourd'hui, elles existent encore, mais elles sont plus discrètes. Le 5 février dernier, à Saint-Hippolyte, une commune située au nord de Perpignan, une procession a été organisée pour que la pluie tombe enfin. 5 mois qu'il n'avait pas plu. Des précipitations ont été enregistrées dans les jours qui ont suivi l'événement. Et depuis, plus rien. Donc voilà, allez-y, marchez dans les rues et puis invoquez Godéric, God Michel, le God que tu veux, il n'y a aucun souci. En bref aussi, alors j'ai vu, ça c'est Belga qui nous apprend ça, la dernière heure, en Belgique. Le Vatican va envoyer un discours du pape dans l'espace. Je pense qu'on ferait mieux d'envoyer le pape dans l'espace, tout court, mais enfin, c'est pas grave. Donc le Vatican va envoyer un discours du pape dans l'espace, ce nanolivre, sera mis en orbite. Alors c'est un nanolivre, mais alors, notez bien parce que c'est important pour la suite. C'est un très court article, mais je vous le lis quand même. Ce nanolivre, c'est un nanolivre, mais vous allez voir que c'est bizarre. Donc sera mis en orbite à 525 km d'altitude par une fusée Falcon 9 de SpaceX qui décollera le 10 juin depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie, a annoncé le Saint-Siège lors d'une conférence de presse à Rome. Il fallait bien une conférence de presse. C'est quand même grâce à des scientifiques que ton nano-livre va monter jusqu'à 525 km d'altitude, Mister le Pape. Et les scientifiques, bah, il me semblait que tu les aimais pas beaucoup, hein. Puisque lorsque tu nous apprends que Intel a marché sur la flotte il y a 2000 ans, pardon, mais tu t'assois sur la science. N'importe quel être humain ne peut pas marcher sur l'eau. Aucun être humain, aucune femme, aucun homme ne peut marcher sur l'eau. Donc tu t'assois sur la science, mais en même temps tu as recours à la science pour envoyer dans l'espace, comme si ça suffisait pas, un nanolivre qui sera mis en orbite à 525 km. D'altitude. La pièce électronique microgravée d'à peine 2 mm bon, soit, sera embarquée sur un satellite rectangulaire d'une trentaine de centimètres, un CubeSat s'appelle, CubeSat sans doute, équipé de panneaux solaires et conçu par les étudiants de l'école polytechnique de Turin. Ils ont que ça à foutre. Elle contiendra un discours prononcé par le pape le 27 mars 2020 en pleine pandémie. Rappelez-vous, c'est moi qui rajoute. Ce jour-là, sur une place Saint-Pierre déserte et balayée par la pluie, le chef de l'Église catholique avait exhorté le monde apeuré et perdu à revoir ses priorités. Ah, mais de quoi je me mêle, hein, le pape. Donc revoyons nos priorités. Baptisé Space Satellites, satellite de l'espace en latin, pardon, satellite de l'espoir en latin, le projet dont le budget n'a pas été précisé est mené conjointement par le Vatican, l'agence spatiale italienne et différents instituts italiens. L'objectif de cette collaboration est, écoutez bien, d'envoyer ce discours au-delà des frontières terrestres pour atteindre, depuis l'espace, autant de femmes et d'hommes que possible sur notre planète en difficulté, a expliqué le président de l'agence spatiale italienne, Giorgio Sacocchia. Alors, faut savoir, c'est un nanolivre ou c'est un truc qui va émettre depuis l'espace et qui va permettre à autant d'hommes et de femmes que possible sur notre planète en difficulté d'entendre le discours du pape. C'est un livre ou c'est un truc qui va jouer de la musique, des sérénades, du pipeau? Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, on ne sait pas bien précisément. Ah, celle-là est pas mal aussi. Alors ça, c'est un article réservé aux abonnés de La Croix, du Monde. Oui, c'est vrai que Le Monde est quand même très ésotérique, hein, en ces temps, hein, quand il est pas, quand il frôle pas avec. Bref. Un article du Monde, une tribune d'Agnès Desmazières, qui est historienne et théologienne. C'est dans Le Monde, c'est paru le 13 février 2023, c'est réservé aux abonnés, je suis pas abonné au Monde, et puis j'ai pas demandé à un pote qui était abonné pour le coup, parce que je m'en tape un peu. Il y a le chapeau quand même, les scandales sexuels à répétition qui attiennent l'Église catholique manifestent sa difficulté à se départir d'une culture pure et séculaire, du secret et de l'impunité, constate Agnès Desmazières, pardon, historienne et théologienne. Et attendez, le plus beau, c'est quand même le titre. Le titre de l'article et de la tribune est absolument magnifique. Écoutez-moi bien. Écoutez-la bien, c'est pas moi, je rapporte sa parole. Hein. Moi, ce que j'ai à dire, je vous demanderai pas de l'écouter. Mais écoutez bien ce qu'elle a à dire. La condamnation des violences sexuelles représente un leitmotiv du discours ecclésial depuis les premiers siècles de l'Église. Je répète, la condamnation des violences sexuelles représente un leitmotiv, donc quelque chose qu'on répète, hein, du discours ecclésial depuis les premiers siècles de l'Église. 330 000 enfants victimes d'actes pédocriminels au sein de l'Église française, de 1950 à aujourd'hui. La condamnation des violences sexuelles représente un leitmotiv du discours ecclésial depuis les premiers siècles de l'Église. Eh bien, madame, quelle belle réussite, indéniablement. Et puis un dernier mot au sujet de Bilal Hassani, en soutien à lui, et puis de constater à quel point le pauvre Bilal a pu être embêté ces derniers temps, et il a été menacé jusqu'au point d'annuler son concert, qui devait avoir lieu à Metz, en Moselle. Le concert de Bilal Hassani, ex-candidat de la France à l'Eurovision, dans une ancienne église à Metz, hein, une ancienne église désacralisée depuis je ne sais combien d'années, a été annulé. Le producteur en a fait lui-même l'annonce le 5 avril dernier. Le concert, avait provoqué la colère des catholiques radicaux. Les catholiques, il y en a de moins en moins. Les catholiques radicaux, il y en a de moins en moins aussi, hein, par voie de conséquence. Et pourtant, ils arrivent quand même à faire chier ce pauvre Bilal. Bilal, il a deux torts, hein, deux torts aux yeux des, comment ils appellent ça, catholiques radicaux. Le premier, c'est qu'il est homo. Et puis le deuxième, c'est qui s'appelle Bilal. Ah oui, ça c'est pas évident pour eux, hein. Ah ouais, évidemment. Voilà, bah écoutez, on a fait un peu le tour des mauvaises nouvelles, entre guillemets. On va se faire une dernière pause musicale avec les Bouradleys qui vont nous chanter Lazarus en version acoustique. Et ensuite, eh bien, nous irons à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'émission. Hein. On termine toujours par une bonne nouvelle de l'émission. Cette fois, cette bonne nouvelle de cette semaine, elle n'est pas en toc, mais elle n'est pas loin d'être en toc. Mais elle est quand même pas mal. Les sondages, est-ce que vous croyez aux sondages? Moi, pas des masses. Les sondages réalisés sur 1000 et quelques personnes. Quand j'étais jeune, j'avais passé un bac B et on m'avait appris dans ce cursus que la représentativité d'un sondage, c'était à partir de 1000 personnes. Donc on va estimer qu'il est représentatif. Enfin, il concerne 1000 réalisés sur 1000 et quelques personnes. C'est pas énorme. Mais bon, quand il va dans mon sens, hein, on va faire un tout petit peu de démagogie pour le coup. Pas tant que ça, parce que malgré tout, hein, c'est pas un article du Monde Libertin que je vais vous lire, c'est un article de 20 minutes publié, c'est une brève de l'AFP, publié par 20 minutes. Bon allez, un petit, les Bouradleys tout de suite, et on se retrouve dans quelques minutes, quelques instants, 3 minutes 13.
This next song is by the Bouradleys, that's us, and this is called Lazarus.
Religion avec 44% de croyants, la foi recule en France. 20 minutes avec AFP, publié le 7 avril dernier. Religion avec 44% des croyants, la foi recule en France. La foi marque le pas, selon un sondage IFOP fiducial réalisé pour Sud Radio et révélé vendredi 7 avril. 44% des personnes interrogées disent croire en Dieu contre 49% en 2021. 2021, 49%. 2022, 2023, 44%. et avec des différences marquées selon les tranches d'âge, le lieu d'habitation et le niveau de vie. À la question, vous personnellement, croyez-vous en Dieu ? Vous personnellement, bah oui, moi personnellement. C'est-à-dire que si tu me demandes si je crois en Dieu, je ne vais pas te répondre pour ma voisine Ginette, tu vois, je vais te répondre pour moi. Donc moi personnellement, non, je ne crois pas en Dieu. Alors, la question est posée, une majorité des gens, une majorité de 56% répondent non. Et 44% répondent oui. En 2004, ils étaient 55% à se dire croyants, 56% en 2011, et ils ne sont plus que 44% en 2023. La tranche des 18-24 ans est celle qui croit le moins en Dieu. 36% contre 64% n'y croient pas. Mais la tranche d'âge juste au-dessus, celle des 25-34 ans, qui compte 47% de croyants. Mais la tranche d'âge juste au-dessus, ça compte 47% de croyants. D'accord, très bien. Puis on tombe à 38% pour la tranche d'âge 35-49 ans. Ils sont 46% dans la tranche d'âge 50-64 ans. Moi, je suis dans celle d'avant, hein, 35-49, encore quelques jours. Donc j'en profite, je suis dans les 38%. Et 50%, donc plus on va dans l'âge et plus on croit en Dieu, plus on va dans l'âge, plus on a peur de ce qui arrive. C'est tout à fait logique. Donc ils sont 50% chez les plus de 65 ans à croire en Dieu, à dire oui, je crois en Dieu. En revanche, la différence est minime entre hommes et femmes. 45% des hommes croient en Dieu et 44% des femmes se disent croyants ou croyantes. La foi varie selon les revenus. Elle est plus faible à la fois chez les plus aisés, plus de 2500 euros par mois par personne, au foyer, avec 40% qui se disent croyants, et chez les plus pauvres, moins de 900, dont 39% se disent croyants. C'est donc dans les classes moyennes inférieures, entre 1300 et 1900 euros par mois, que la proportion de personnes se disant croyantes est la plus élevée, avec 48%. Ensuite, on analyse les affinités par parti politique. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Les partis politiques, c'est pas intéressant. La religion, c'est pas intéressant. Si on combine les deux, on va voir si c'est intéressant. On va voir. J'en sais rien. Par affinité politique, le plus faible taux des personnes disant croire en Dieu se situe chez les sympathisants EELV. Ce qui veut dire, je ne sais plus. C'est les verts, c'est les écologistes. Et le plus élevé chez ceux des républicains, 69%. Donc les moins croyants, c'est les écolos, et les plus croyants, c'est les républicains. La droite, hein, on va dire, parce que les républicains, bon, ça veut tout et rien dire. En l'espèce, c'est le parti qui s'appelle les républicains, qui s'appelait avant l'UMP, qui s'appelait avant le RPR, qui s'appelait avant l'UNR, je crois l'UDR, ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Bon, enfin bon, bref, passons, on s'en fout. Donc le taux est proche de la moyenne chez les sympathisants du Front National, devenu Rassemblement National, mais précédemment fondé par d'anciens de la Waffen-SS, donc le Rassemblement National. 44% des gens se disent croyants, et chez LFI, ce qui veut dire, je ne sais pas, 42%. Donc voilà, bon, c'est à peu près, voilà. Et légèrement, alors en revanche, c'est légèrement supérieur à la moyenne, hein, qui est de 44%, légèrement supérieur chez le PS, 49%, et Renaissance, donc l'anciennement La République En Marche, anciennement rien du tout, 50% donc des gens de LREM devenus Renaissance, devenus R tout court, qui croient en Dieu. Enfin, la croyance en Dieu est nettement plus forte dans l'agglomération parisienne, 59%, que dans les communes rurales, 37%. Tandis que les communes urbaines de province, 43%, sont proches de la moyenne nationale. Ah, on croit plus en Dieu dans les agglomérations parisiennes. Alors, peut-être, je sais pas, du fait qu'il y a plus de monde, donc t'as plus de chances de croiser une grenouille de bénitier qui va te dire « Viens dans mon... » Oh là là, j'allais dire un gros mot. Oh, je me suis retenu au dernier moment, c'est magnifique. Minuit 6, c'est la fin de la nuit noire. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans 15 jours si tout va bien. On se retrouve en revanche mercredi pour une nouvelle édition du Fury Club. Et pour finir cette programmation musicale, eh bien, c'est une énorme bise que j'envoie au petit Théo, qui est mon neveu depuis le 2 avril. Je t'embrasse très très fort, Théo. Et je te souhaite la bienvenue sur cette terre. Il va y avoir du boulot. Il va y avoir du boulot. Voilà, allez, prenez soin de vous, prenez soin d'elle. On se retrouve mercredi pour le nouveau Fairy Club. Le Fairy Club nouvelle formule. Je t'embrasse très fort, Théo. J'embrasse tes parents également. Allez, je vous embrasse tous et toutes également. Bonne fin de soirée sur l'antenne de Radio Libertaire. À mercredi, ciao.
mon bel enfant, libre et prisonnier, prisonnier des contraintes que s'imposent les hommes et libre de les transcender. N'aie jamais peur du vide. Car c'est le vide qui t'a enfanté. Accroche-toi aux parois dures et lisses de la vie. Accroche tes ongles aux moindres interstices. À la moindre infractuosité du roc. Large tes oreilles à l'appel du vent, à la musique du silence. Ouvre tes narines aux odeurs fortes et subtiles des parfums de la terre, de la sueur, de la peau, de tout ce qui vit, qui exhale, qui respire. Pour que lorsque t'arrivera le pire, tu puisses en tirer le meilleur. Ouvre tes bras à la détresse humaine, car ta propre détresse peut en être le ferment. À la beauté secrète, sourde, aveugle et muette. Parce que rare est celui qui la voit. Parce que rare est celui qui l'entend. Garde ton âme ouverte. Comme une source offerte à la soif du mendiant, de l'errant, du poète, du chercheur, de l'enfant. Et ton regard innocent et ton esprit honnête garde-les toute ta vie. Car la simplicité est la marque des grands.